Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h34 sur RMC, BFM TV. Bonjour Louis Alliot.
Bonjour.
Vous êtes maire de Perpignan, affilié RN. On va commencer par parler de ces rixes. Hier, je voulais vous interroger. Deux rixes dans l'Essonne. Deux enfants, deux adolescents sont morts. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Et pour lui, en cause, il y a la responsabilité des parents. Voilà ce qu'il a dit. Avant que votre enfant ait une barre de fer ou un couteau entre les mains, il s'est passé quelque chose qui devrait être rappelé. C'est l'autorité parentale. Est-ce que c'est la faute des parents ?
On ne peut pas tout mettre sur le dos des parents quand l'état de la société est à ce point tendu dans tous les domaines. J'ai écouté ce matin sur votre antenne le problème de la drogue. Je ne cesse de le répéter. Toutes ces rixes, toutes les violences que l'on peut voir, tout ce que l'on peut voir contre la police aussi, vient d'un trafic endémique dans pratiquement aujourd'hui, il faut le dire, tous les quartiers de France, toutes les villes moyennes, grandes, etc., sans que l'on voit bien quelle est la stratégie de l'État pour lutter contre cela. On entend la dépénalisation comme si c'était le remède miracle à quelque chose de grave, mais on n'entend pas de campagne, de prévention dans les écoles pour dire à nos gamins, attention, la drogue, ça fait des dégâts.
C'est pas tout à fait vrai, ça, quand même.
Ah, il y a des campagnes auprès des jeunes. Ce n'est pas vrai. Regardez. Intéressez-vous à la question. Moi, je m'y suis intéressé. Il n'y a plus rien. Il y a des centres pour aider les gens qui se droguent, pour les sevrer, oui. Il y a même des salles de shoot, ça avait été un débat. Mais il n'y a plus de grande campagne pour dire attention. Sauf que...
Vous voudriez, vous,
ah oui,
que soit lancée une grande campagne,
moi, j'aimerais,
pour alerter sur la drogue auprès des jeunes.
Moi, j'aimerais que ce soit une grande cause nationale. Voilà. La France est au cœur de réseaux transnationaux. Moi, je le vois à Perpignan. On est sur la route, qui vient du trafic de drogue, notamment du Maroc, via l'Espagne et même d'autres pays. Et les policiers sont assez démunis. Les services de l'État n'ont pas les moyens, on va dire, de lutter efficacement contre des choses qui sont graves et qui rapportent, Madame Neuville, énormément d'argent.
Justement, on
énormément
va y revenir, parce d'argent. Que tout est lié, en effet, et on va revenir à la question de la drogue, mais quand même sur cette question des parents. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il faut, oui ou non, sanctionner les parents? Plusieurs maires ont proposé, c'est le cas par exemple à Poissy, de sanctionner les parents financièrement, c'est-à-dire de leur supprimer des allocs ou des aides si leur enfant est délinquant. Est-ce que vous estimez que c'est acceptable, ça, comme idée?
Oui, il y a des familles à problème bien identifiées.
C'est la faute des parents, donc quand même, vous dites, on ne peut pas tout mettre sur la faute des parents,
mais
enfin.
Oui, mais les phénomènes de bande échappent totalement à tout le monde, d'ailleurs, évidemment aux parents, mais il y a des familles identifiées dont on sait que les parents soit ne font rien, soit profitent d'ailleurs du trafic de leurs enfants, parce qu'il y a ça aussi dans beaucoup
d'endroits. Qui ramènent des sous quand même.
Qui ramènent des sous, on sait très bien d'où vient cet argent, et donc de ce point de vue-là, oui. Mais faut-il que la CAF, encore faut-il que les APL, etc., soient assez courageuses pour le faire. Parce que moi, je vois dans les discussions que nous avons dans un certain nombre de cas pour des familles qui abusent...
Vous auriez voulu,
oui,
à Perpignan, que certaines familles se voient retirer leurs allocations, par exemple, de la caisse d'allocation familiale.
Pour des incivilités graves. On connaît des gens qui jettent leurs poubelles par les fenêtres. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, non. On devrait aller voir ces familles et leur dire, écoutez, voilà, on vous a pris sur le fait une fois, un avertissement. Au bout de la troisième, on vous supprime les allocations familiales.
Et alors, que ne le faites-vous?
Mais parce qu'on n'a pas le pouvoir, nous, maires, de le faire. C'est aussi à la CAF et c'est aussi aux organismes d'État de le faire et d'avoir le courage de le faire. Sauf qu'on est toujours dans, j'allais dire, un certain angélisme, une politique de prévention, mais de prévention dont on voit aujourd'hui les conséquences et les mesures que l'on ne prend pas, les mesures de coercition, les sanctions que l'on ne prend pas, eh bien aujourd'hui elles permettent tous les excès, et tous les excès aujourd'hui conduisent à la mort de jeunes gens. Malheureusement, 14 ans c'est jeune pour mourir, et ce n'est pas terminé parce que les dégâts vont être considérables à l'avenir.
Louis Alliot, qu'est-ce que vous dites à ces parents? Vous dites à l'instant, ça rapporte beaucoup de sous, le trafic, en effet. Mais quelles sont les autres perspectives qui sont offertes à leurs enfants pour gagner de l'argent?
C'est là que... C'est sûr que quand vous avez un chouf, c'est-à-dire un gamin qui surveille, qui a 13 ans, sur une chaise en plastique à l'entrée d'un quartier, qui touche 150 ou 200 euros par jour, vous n'êtes pas prêt de le refaire venir à l'école et de lui donner une formation pour qu'ils apprennent un métier. C'est là le problème. C'est donc qu'il faut prendre les jeunes le plus tôt possible dans les classes pour de la prévention, pour de l'accompagnement, pour de la formation. Mais dans beaucoup de quartiers, même les maires ont démissionné. Les maires ont acheté la paix civile. Ils ont embauché quelquefois des grands frères. Et donc, ils ont essayé de gérer...
Qu'est-ce que vous faites, vous?
Là, aujourd'hui, moi, justement, je m'occupe de cela. Par exemple, je vais lancer, pour tout vous dire, la semaine prochaine, du soutien scolaire avec les étudiants, par l'intermédiaire d'emploi civique, pour aller au contact de jeunes qui aujourd'hui, avec le Covid en plus, sont un peu laissés à l'abandon, pour remettre un peu de sociabilité.
Mais ça, l'État le fait. L'Éducation nationale a lancé ce programme qui s'appelle Devoirs faits. Avoir fait les devoirs à l'école avant de rentrer.
Oui, quand les enfants vont à l'école. Hein. Mais quand vous avez des classes où vous avez 200 scolarisés et que vous n'avez que 13 présents dans la classe, il faut quand même se poser la question. Ah ben alors, écoutez, moi je me suis intéressé pour toutes les raisons du monde, le Covid, parce que les parents se lèvent pas le matin, parce que plein de choses comme celle-là, il faut y aller petit à petit en remettant des règles, de l'autorité et aussi les conséquences de ces comportements. Ça ne peut paraître la générosité de l'État, quel que soit le comportement des familles, parce que cette générosité a un coût pour la nation et ce sont les gens qui travaillent, qui paient. Pour ceux qui précisément ne font aucun effort, et là aussi il faudrait revenir là-dessus.
Louis Alliot, vous le disiez, le trafic de drogue est parfois au cœur de ces bagarres. Est-ce que malgré tout, l'idée de légaliser les trafics pour mieux le contrôler, ce trafic, c'est pas une bonne idée ?
Non, parce que ça s'arrête où ? Alors aujourd'hui c'est le cannabis, mais demain on nous dira, ben oui, mais tout le monde fume du cannabis, mais tout le monde prend de la cocaïne, il faut aussi libéraliser la cocaïne, donc c'est petit à petit, on organise quoi ? On organise l'anarchie, on organise dans les quartiers des gangs, de véritables gangs, hein, de gens qui gagnent énormément. Moi je peux vous dire que dans certains coins de Deal à Perpignan, vous avez des coins où c'est plus de 200 000 euros par semaine de bénéfices.
Mais comment on fait pour lutter ?
Ah ben il faut se donner les moyens. Il faut que l'État déclare la guerre à ses réseaux. Il faut qu'il y mette les moyens.
C'est pas ce qu'il fait là.
Il faut pénaliser.
C'est pas pour ça qu'il y a toute cette.
Il faut pénaliser aussi le consommateur.
Agitation de la fourmilière.
Il faut aussi pénaliser le consommateur. On ne peut pas avoir la facilité en France d'aller pénaliser pour la moindre faute les automobilistes. C'est pratique et ça rapporte beaucoup. Et puis laisser comme ça les consommateurs.
Mais il y a des pénalisations. Regardez, Louis Alliot. Ce matin, le journal La Provence révèle un chiffre assez inouï. 220 points de deal dans les Bouches-du-Rhône ont été recensés. C'est deux fois plus que le nombre de bureaux de poste, c'est autant que les stations-service. Et pourtant, en 5 ans, 900 dealers ont été écroués. Et ça n'a rien changé.
Mais parce que c'est un travail de longue haleine et c'est aussi de la prévention.
Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites.
Oui,
900
mais
dealers écroués.
Mais c'est comme si vous vidiez l'océan, la petite cuillère. Voilà, il faut y aller. Il faut y aller franco. Il y a des gangs, et bien il faut les affronter. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Vous ne pouvez pas avoir un certain nombre de dealers que vous arrêtez 10, 15 fois, que vous remettez en liberté, que vous retrouvez dans la rue, qui ricanent quand ils voient la police passer, etc. Ce n'est pas possible comme ça. Il y a des juges aussi. Ces juges, il faut qu'ils prennent la responsabilité aussi de faire leur travail correctement.
Ils font pas bien leur travail, les juges?
Et quand vous remettez en liberté 15 fois la même personne qui vient devant vous parce qu'il a trafiqué et qu'il a été pris la main dans le sac, à un moment donné, il faut quand même se poser la responsabilité. Et ça, malheureusement, ce n'est pas fait. Et on a l'impression que tout le monde baisse les bras. C'est ça qui est grave. Tout le monde baisse les bras. La police n'en peut plus. Au bout d'arrêter un gamin 15 fois, elle n'arrêtera pas une 16e fois. Les juges, très certainement, sont aussi lassés par le manque de moyens, par les textes peut-être qui ne sont plus adaptés à notre temps. Peut-être.
Donc faut tout changer, faut changer les textes.
Complètement.
Ah oui.
Complètement. Et laisser aussi au maire le soin de pouvoir faire un certain nombre de choses dans les quartiers, parce que on voit bien que, par exemple, la police municipale.
Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la possibilité?
D'abord, nous on remet de la proximité, de la police de proximité sur le terrain. On remet de l'îlotage, ce qui ne se faisait plus. Voilà, on en met deux jours. Comme de nuit, on ouvre des postes de police dans les quartiers, ceux-là même que l'État nous a enlevés par des mesures d'économie dont on voit aujourd'hui les conséquences dramatiques. Et je crois que c'était la mandature Sarkozy, celle-là. Chaque mesure gouvernementale depuis maintenant 30 ans, aujourd'hui on en paye les conséquences, et il faut maintenant arrêter. Si on ne remet pas l'autorité de l'État au cœur de nos quartiers, au cœur de notre système républicain, eh bien nous irons vers des guerres qui seront des guerres civiles, mais liées à des trafics et liées à tout un tas de choses que l'on peut voir et que l'État est incapable d'arrêter aujourd'hui. Donc Monsieur Darmanin peut parler, Monsieur Darmanin peut dire c'est la responsabilité des parents, Monsieur Darmanin peut dire comme il l'a dit l'autre jour, mais à la fin la police gagne toujours. Je m'excuse, mais il se fout de qui, monsieur Darmanin ? La police gagne toujours ? Eh bien, allez un peu voir dans les quartiers ce qui se passe et on verra si la police gagne toujours.
Louis Alliot, Covid qui se poursuit, la circulation du virus, confinement le week-end qui a donc été annoncé à Nice, une incidence très forte dans le Nord, en particulier à Dunkerque. Est-ce que vous, maire de Dunkerque, vous demanderiez à ce qu'on reconfine ou est-ce que, comme le fait le maire de Dunkerque, vous diriez non, je vous en prie, pas tout de suite ?
Écoutez, c'est lui qui connaît le mieux la situation de sa ville et il faut aussi leur faire confiance parce que j'ai vu qu'à Nice, par exemple, les politiques demandaient le confinement, mais j'ai vu que les deux professeurs, les deux virologues du CHU ne le demandaient pas forcément. Donc il faut peut-être qu'à l'échelle départementale, il y ait des concertations et que des décisions soient prises. Elles ont été prises, tant mieux. C'est l'adaptation de la situation aux décisions que l'on prend, plutôt des décisions au contexte. Et moi, c'est pareil. À Perpignan, j'ai demandé hier la fin du couvre-feu à 18h parce qu'il ne rime plus à rien. Il gêne les familles, il gêne les entreprises, il gêne les restaurateurs qui font de la restauration rapide et qui aujourd'hui ont une baisse du chiffre d'affaires dramatique. Notre taux d'incidence est de 87, je crois, dans les Pyrénées-Orientales. Il est de 500 à Nice et de 700 à Dunkerque. Si on confine à Nice parce que c'est important, on peut peut-être déconfiner à Perpignan parce que c'est moins important. L'adaptation doit être la règle.
Donc vous êtes favorable, finalement, à la même chose qui se passe à Nice, c'est-à-dire à cette régionalisation, à cette territorialisation du confinement.
Oui, parce que...
Du confinement, du couvre-feu.
On l'a demandé depuis longtemps et c'est pour ça que j'avais demandé l'ouverture des musées. De la même manière, aujourd'hui, quand vous rentrez dans un musée, vous ne touchez à rien. Il y a du gel, il y a des distanciations, il n'y a pas de groupe, il y a une inscription préalable. Qu'est-ce qui gênait l'ouverture des musées dans des endroits comme Perpignan ou dans d'autres départements qui ont un taux d'incidence?
Vous retenterez votre chance?
Je ne peux pas, la justice m'en a empêché, j'ai fait appel. Mais moi j'espère que Mme Bachelot et le gouvernement vont se ressaisir et justement s'adapter. Voilà, il n'y a pas un pouvoir central qui décide de tout et qui quelquefois, et même la majorité du temps, fait beaucoup de bêtises. Il y a aussi laisser les élus locaux vous parler, vous donner leur opinion et leur laisser peut-être un tout petit peu de liberté pour permettre aux populations locales tout simplement de vivre, pas plus.
Louis Alliot, quand vous demandez à lever le couvre-feu à Perpignan, ça veut dire que vous demandez, au fond, un retour à la vie normale. Qu'est-ce qui reste pour vous comme barrière ?
Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Écoutez, il y a des mesures de prévention, on les connaît, gestes barrières, le masque, etc.
C'est acquis, ça y est ?
Oui, je pense que les gens, même si on sent du relâchement, mais enfin, il faut le leur dire, il faut faire de la pédagogie, sans cesse. Nous avons des traitements, on n'en parle pas assez. Enfin, moi, je regrette, mais moi, je connais des gens, ils ont eu le Covid, ils ont eu un traitement. Antibiotiques, du zinc, enfin, etc., tout ce que l'on peut voir, etc. Voilà. Il y a des traitements, il y a la vaccination. Bon, on voit que c'est pas terrible, la vaccination, mais enfin, ça progresse.
C'est pas terrible.
Mais c'est-à-dire que ça a mis du temps pour se mettre en place.
Mais le vaccin lui-même, par contre, vous n'êtes pas contre.
Non, mais il faudrait en avoir beaucoup plus et faire venir d'autres vaccins d'autres pays, etc., etc. Il faut accélérer tout ça. Et donc, petit à petit, Camille, il faut déconfiner. C'est pas possible. Moi, je vois de l'autre côté de la frontière, à 30 km en Espagne, en Catalogne du Sud, les restaurants sont ouverts. Est-ce que le taux d'incidence est plus grave qu'en France ? Non. Les entreprises travaillent. Il y a une vie sociale. Aujourd'hui, moi, je sens des concitoyens très fragiles, très perturbés. Et très honnêtement, il ne faudrait pas qu'en plus de la crise sanitaire, nous ayons demain une crise sociale grave qui déborde sur peut-être des affrontements et qui mettrait en péril l'équilibre de la nation.
Là, pour le coup, tout est lié. C'est-à-dire que vous revenez quasiment sur les risques qui seraient les bagarres, seraient le résultat du Covid.
Mais c'est pas ça, mais les gens en ont marre. Écoutez, moi, ils ne comprennent pas pourquoi, alors que la situation s'améliore, pourquoi on continue à maintenir des mesures de privation de liberté qui ne s'impose plus. Voilà, qui ne s'impose plus.
Est-ce que pour sortir de cette crise et de ce confinement, vous seriez favorable à un passeport vert, comme c'est le cas en Israël, par exemple, où si vous êtes vacciné, vous pouvez retourner dans les salles de sport et bientôt dans les restaurants?
Écoutez, moi je suis allé quelques fois en Afrique, on nous demande un certain nombre de vaccinations, mais le problème de ce vaccin-là, il ne s'oppose pas. Israël demande ce passeport vert, mais ce vaccin, on ne sait pas s'il vous garantira de ne pas être contagieux, par exemple. Alors vous serez content, vous aurez votre passeport de vaccination, mais vous ne savez pas si vous ne pourrez pas contaminer des gens. Donc, progressons encore.
Donc vous n'êtes pas contre le principe, si je comprends bien, vous n'êtes pas contre le principe d'un passeport vaccinal.
Je suis contre le principe, mais c'est de toute façon, la décision ne nous appartiendra pas, puisque ce sont les pays étrangers qui nous l'imposeront.
Pardon, mais parce que vous disiez, quand j'ai été plusieurs fois en Afrique, je l'ai fait, ça ne me posait pas de problème.
Oui,
donc j'avais le sentiment, du coup, que vous n'étiez pas contre.
C'est la fièvre jaune, etc. Mais encore une fois, c'est notre volonté, on est libre de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est les pays qui vont décider pour nous.
Mais bon, quand même, si on veut accélérer la reprise, à un moment, il faut peut-être quand même que les gens se fassent vacciner.
Je ne vais pas dire à Israël, non, ne le faites pas, parce que voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils sont souverains.
Mais vous, ici, vous n'êtes pas favorable.
Moi, ici, je n'y suis pas favorable, et encore moins favorable à un passeport vaccinal pour entrer dans un restaurant, un cinéma ou je ne sais quoi. Il faut maintenant arrêter, quoi. Il y a assez de mesures, de prévention, de traitement et même de vaccination pour éviter, en plus, d'y ajouter une mesure de traçabilité, on va dire, numérique, technique, etc., qui fait peur quand même à beaucoup de gens.
Ça vous fait peur, ça ? Vous avez l'impression que quelqu'un va ensuite vérifier vos données ?
On a quand même l'impression, petit à petit, d'avoir un flicage généralisé. Et je trouve que notre société, de ce point de vue-là, elle n'évolue pas de la meilleure manière qui soit. Mais voilà, vous savez, qu'on ne peut pas lutter contre les choses, on les subit et il faut s'adapter. Donc moi, je fais comme tout le monde, je m'adapte.
Louis Alliot, vous parliez de l'accélération nécessaire de la vaccination. Est-ce que ça doit passer, par exemple, par l'obligation pour les soignants ?
Écoutez, moi, je sais pas, les soignants, d'abord, ils connaissent mieux leur métier que moi, et moi, je suis de toute façon pour le principe de la liberté. Après, il y a le principe de responsabilité. C'est à eux de le voir. Mais moi, j'aimerais que, sur les vaccins, on fasse accéder au marché national tous les vaccins qui sont sur le marché mondial. On a appris le vaccin russe, d'autres vaccins américains, etc., qu'on le fasse et vite, parce que nous n'avons pas encore les stocks disponibles pour vacciner tout le monde. Vous avez vu les problèmes sur l'AstraZeneca, où on a du stock, là, pour le coup, mais personne n'en veut, parce que
Mais pourquoi personne n'en veut ?
Je sais pas, parce qu'il y a des effets indésirables, parce qu'un certain nombre d'analyses ont été faites sur le fait qu'il ne soit pas totalement...
Donc vous doutez de l'AstraZeneca, vous ?
Mais je ne sais pas, moi je vous écoute, vous savez, tous les matins j'écoute les médias.
L'effet, c'est qu'en effet, notamment, il y a les effets secondaires assez pénibles, pas graves mais pénibles, et que notamment comme ça a été donné en priorité à des soignants, quand on avait 10 soignants qui se sont fait vacciner le même jour et qui du coup le lendemain étaient tous au lit et ne pouvaient pas venir travailler, ça posait un problème. Mais ça ne pose pas un problème, médical, vous voyez ce que je veux dire, c'est un problème plutôt conjoncturel.
Le problème de cette pandémie, c'est qu'elle a mis, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres, le doigt sur l'extrême différence qu'il peut y avoir au sein du corps médical sur beaucoup de choses. Moi, je me souviens des premiers commentaires sur la vaccination, sur les traitements, je ne parle même pas de la polémique inutile sur les traitements, le professeur Raoul, etc. Enfin, je veux dire, il y a des malades, il faut les soigner. Encore une fois, les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Et cette pandémie est en train d'atteindre le cœur de notre nation économique, sociale, psychique de notre peuple, et on continue à disserter sur « Ah oui, mais c'est bien, pas bien, etc. »
Il y a forcément quand même un principe de précaution, on est obligé d'attendre un peu, de vérifier avant de
d'utiliser. Oui, mais alors, si on fait un principe de précaution, tout le monde, il faut confiner jusqu'à le restant de nos jours, parce qu'on nous annonce qu'il y aura d'autres
virus. Donc il faut vivre avec le risque.
Exactement, il faut apprendre à vivre avec le risque et protéger les personnes qui sont le plus à risque. Moi, j'ai regardé les statistiques encore, par exemple, chez nous. Les personnes dont le taux de mortalité est le plus important sont les plus de 85 ans.
Donc, est-ce que vous êtes favorable à l'idée de confiner cette partie-là de la population
Non,
les autres ?
Je ne suis pas favorable à ça, mais je suis favorable à ce qu'on fasse comprendre à ces personnes de mieux se protéger que les autres.
Ça revient à peu près au même. Un autoconfinement, alors ?
Oui, en quelque sorte, mais certains se l'appliquent d'ailleurs, vous savez, d'autres non, mais c'est leur liberté. Voilà, quand vous avez...
S'ils veulent prendre ce risque...
Quand vous avez 85 ans et plus, vous avez fait votre vie et vous êtes suffisamment responsable pour savoir ce que vous devez faire ou pas. Moi, vous savez, j'ai un père qui a 82 ans, il est encore très actif, il met son masque, il se promène, c'est ce qu'il fait, il n'est pas... Voilà.
Louis Alliot, vous voteriez Éric Zemmour ?
Non, moi je voterai Marine Le Pen.
Mais s'il se présente ? Marine Le Pen, donc.
Non, moi je reconnais à Éric Zemmour une grande qualité, c'est qu'il remet au cœur du débat des notions intellectuelles, historiques, de la dialectique en quelque sorte sur les idées. Il remet du débat, parce qu'on souffre d'une chose abominable en France, on ne peut plus débattre de rien, tout
tout c'est fait un peu facile. Regardez tout.
Tout fait polémique. Ah oui,
d'accord. Il y a des débats tout le temps.
Mais c'est pas des débats, c'est de la polémique. C'est-à-dire que vous défendez une opinion, eh ben vous êtes facho. Vous en défendez une autre, vous êtes ceci. Voilà, il faut arrêter avec tout ça. La France est un pays démocratique. Nous sommes tous des citoyens libres.
On peut pas débattre.
Libres.
Regardez Éric Zemmour, il a une émission, une heure de grande écoute. Rien n'est interdit.
Oui, mais combien de gens de droite sur une chaîne par rapport à ceux qui sont de gauche et qui défendent d'autres idées? Bon, on va pas faire des quotas de gens de droite et de gauche. C'est pour ça.
Vous dites pratiquement ça, quoi.
Non, je dis qu'il faut que le débat ait lieu et qu'on laisse les gens tranquilles. Les opinions, elles peuvent être choquantes. Moi, je suis choqué quand j'entends monsieur le patron de Mediapart, monsieur Plenel, je suis choqué quand j'entends monsieur Cohn-Bendit, qui sont chroniqueurs partout, on les entend un peu partout, etc. Mais c'est, voilà, ça fait partie, heureusement, de notre liberté de les écouter et d'en tirer des conclusions, voilà.
Louis Alliot, vous dites, entre les deux, je voterai Marine Le Pen, mais est-ce que ces deux-là se parlent?
Mais ils seront obligés de se parler.
Ils seront, donc ils ne parlent pas aujourd'hui, mais ils parleront.
Mais ils se sont parlé, enfin, je veux dire, ils ne se parlent pas, ils vont se voir, ils se verront, ou peut-être au téléphone ils se parlent, je n'en sais rien. Mais tout le monde a intérêt à se parler. Quand on voit l'état de la France, la querelle liée à savoir qui va être le mieux placé, etc., n'a plus de sens. Il y a une candidate, elle est indéniablement aujourd'hui la mieux placée à la dernière enquête d'opinion, 48. Donc, tous
vous aimeriez qu'Éric Zemmour rejoigne Marine Le Pen?
Mais pas qu'Éric Zemmour. J'aimerais qu'il y ait, si vous voulez, une trêve dans les critiques stériles dont certains se sont laissés aller avec Marine Le Pen, qui d'ailleurs corrige leur tir, d'ailleurs, depuis un certain nombre de temps, et que l'on discute. Voilà, que l'on discute. La nation est en danger. La France est en danger, je le crois. Et donc, les patriotes, les nationaux, les républicains doivent se réunir pour remettre les choses à leur place.
Il bosse pour vous, Éric Zemmour?
Il bosse pas pour moi.
Je veux dire, il permet aussi à vos idées de progresser.
Mais il participe au débat, comme Michel Onfray, comme Finkielkraut, comme beaucoup d'autres que l'on voit sur les...
Cela, vous leur mettez des étiquettes RN compatibles?
Mais pas RN, ils font vivre le débat. Et je les préfère à eux, oui, qu'un certain nombre de gauchistes dont on connaît les positions et qui n'ont amené à la France aujourd'hui que beaucoup de malheurs et beaucoup de problèmes.
Merci Louis Alliot d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes maire de Perpignan, affilié donc RN.